Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous. La trêve à Gaza, il n'y aura pas de deuxième phase tant qu'Israël poursuit ses violations, affirme un responsable du Hamas. Ce qu'on appelle la deuxième phase, c'est le début de la reconstruction avec toute une série de concessions que doivent faire les parties les unes et les autres. Par exemple, le Hamas doit désarmer, Israël doit accepter un retrait selon les accords internationaux et bien qu'il y ait un cessez-le-feu, il n'y a pas ce qu'on appelle donc la deuxième phase de ces accords. Le djihad islamique donne de la voix également. Nous avons remis tous les otages qui étaient entre nos mains conformément à toutes les conditions de l'accord de cessez-le-feu, dit-il, et le Hamas de son côté a repris les recherches avec la Croix-Rouge pour retrouver le corps du dernier otage restant dans le quartier de Zetoun à Gaza. Benjamin Netanyahou accuse l'autorité palestinienne de vouloir la paix sans Israël. Lors d'une rencontre avec le chancelier allemand Friedrich Merz, le premier ministre israélien a affirmé que l'autorité palestinienne ne cherchait pas à vivre aux côtés d'Israël. Selon lui, elle veut une paix sans Israël, ne veut pas vivre en état voisin, mais à la place d'Israël. L'ancien chef du Shin Bet, Ronen Bar, lui aussi prend la parole publiquement et il s'attaque frontalement à Benjamin Netanyahou. Il faut assumer les échecs, dit-il, et ne pas s'approprier les réussites. Il appelle à créer une commission d'enquête d'État, c'est-à-dire le contraire de ce que veut le chef du gouvernement israélien, pour établir toute la vérité et éviter un nouveau désastre national, dit-il. Il a livré donc une critique contre l'ensemble de la classe politique au demeurant, pas seulement Benjamin Netanyahou. L'armée de l'air israélienne a lancé une vague de frappes au Liban, y compris au nord du fleuve Litani, dans le cadre de ses opérations contre le Hezbollah. Et puis, près de 50 000 personnes sans papier vivent en Israël, malgré le recul des infiltrations clandestines. La majorité, en fait, sont des migrants qui sont arrivés avant 2014. Et il y a aussi des touristes qui sont restés après l'expiration de leur visa. La question du forum des auditeurs de ce soir, êtes-vous contre le port du foulard par les jeunes filles, autrement dit par les enfants, et êtes-vous contre le port du foulard à l'Assemblée nationale? Pourquoi je pose la question? Parce que c'est le débat, ça a été lancé par l'extrême droite. Nous ne voulons pas de foulard sur les enfants, disent les tenants de la droite, et il n'y a pas question qu'elles mettent les pieds à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas forcément la position de tout le monde, ce n'est pas celle de la gauche par exemple, ou d'une droite moins dure. Vous nous appelez au 01 43 36 04 06, 01 43 36 04 06. Le forum c'est à 18h30, c'est tout de suite après le journal. On part pour Jérusalem, où l'on retrouve notre correspondante permanente, Yaël Ifra. Bonsoir Yaël.
Bonsoir Bernard, c'est bien moi.
L'ancien, c'est vous. Et l'ancien, pas besoin du chef du Shin Bet pour cela, le chef du Shin Bet qui, je viens de le dire à l'instant, se lance dans une critique directe contre Netanyahou, pas que contre lui. Il dit tout le monde doit assumer, mais il agite le siphon rouge. En disant la commission qu'on nous propose, c'est une tarte à la crème. On veut une vraie commission d'enquête avec des mesures qui sont contraignantes. Par exemple, on n'a pas le droit de ne pas témoigner devant une commission d'État. Et il a cette phrase, il dit « il faut assumer les échecs et pas s'approprier les réussites à elle ».
Exactement, Bernard. Alors, Ronen Bar égal à lui-même, hein, puisque déjà à l'époque de l'affaire qui a fini par mener à sa démission, lorsque le gouvernement a tenté de le limoger, Ronen Bar avait déjà été extrêmement offensif, même si à l'époque il était tenu à un certain devoir de réserve, mais il avait quand même déposé à la Cour suprême un affidavit, donc une déclaration sous serment où il détaillait les différentes infractions à la loi commises selon lui par Benjamin Netanyahou, par des demandes faites auprès du chef donc du Shin Bet, Ronen Bar, et d'autres chefs précédents de violer la loi pour servir son régime. Puis il a démissionné, on n'a pas trop entendu parler de lui, on sait qu'il s'était opposé à la nomination de David Zinni, le nouveau patron du Shin Bet, mais aujourd'hui il sort de son silence. France, donc à la conférence Cyber Week de l'Université de Tel Aviv, où bon, beaucoup de célébrités, y compris l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, ont pris la parole. Eh bien, bon, il n'a pas un peu parlé de cyber, mais il a surtout beaucoup fait, pas vraiment, enfin si, de la politique, hein, puisqu'il s'agit quand même de critiquer le comportement du Premier ministre. Donc, un appel à la mise en place immédiate d'une commission d'enquête, comme vous l'avez dit. Donc, Ronen Bar a martelé hein, que c'est la seule voie pour garantir l'avenir d'Israël. Il insiste sur la prise de responsabilité qui, rappelons-le, fait partie de la culture dans l'armée israélienne. L'armée a immédiatement reconnu ses responsabilités, même si on comprend bien qu'il y a eu de très nombreux manquements. Mais tout de suite, le chef d'état-major, Herzi Halevi, a dit « Nous avons manqué, nous n'avons pas défendu les citoyens d'Israël ». Ronen Bar également l'a dit. Le chef du Mossad aussi l'a dit. La seule personne qui ne l'a pas dit, c'est le Premier ministre, qui s'était borné, je le rappelle, à dire au mois d'octobre ou de novembre 2023 « Tout le monde devra répondre à des questions difficiles, y compris moi ». Aujourd'hui, c'est évidemment pas du tout la voie que le gouvernement. Ronen Bar affirme donc le leadership ne s'arrête pas à la prise de responsabilité pour l'échec, mais il inclut la responsabilité de réparer. Et dans le leadership, il faut prendre la responsabilité des ratages et pas seulement le crédit des réussites, comme vous l'avez dit. Et puis surtout, il met en garde de façon très sévère contre les conséquences du fait de ne pas enquêter. Et il affirme que dès l'instant, je cite, où nous n'avons pas décidé et où nous n'avons pas enquêté sur l'ensemble du système, nous avons en fait signé le prochain 7 octobre. Donc c'est quand même une déclaration très grave venant de la part de quelqu'un qui a donc dirigé les services secrets, la sécurité intérieure de l'État d'Israël pendant des années. Et donc évidemment, comme à peu près tous les responsables, sauf le gouvernement, il appelle à la mise en place d'une commission d'enquête nationale ou d'État, un mot un peu plus compliqué à traduire, donc qui doit être composée selon lui d'hommes de métier qui seraient capables de voir tout le tableau. Alors, Ronen Bar a également pas seulement évoqué les ratages, mais il a rappelé quel avait été le prix humain de cet échec, puisqu'il a rappelé qu'il a donné deux exemples, Hirsch Goldberg-Pauline, assassiné par le Hamas le 28 août 2024 dans un tunnel près de la ville de Rafah, le sergent Ofir Shoshani également qui a trouvé la mort, et il a dit que ces personnes-là auraient pu être assis ici avec nous aujourd'hui, et il affirme « ce n'est que lorsque vous les voyez que vous comprenez la signification de la responsabilité et le prix réel que nous payons lorsque nous nous trompons. La responsabilité, dit Ronen Bar, est infinie ». Donc, vous l'avez dit, c'est vraiment une attaque en règle, très sévère et extrêmement lourde en termes moraux, en termes de leadership. Pour Ronen Bar, le gouvernement ne fait pas son travail. Et cela vient faire écho, hein, Bernard, à ce qui s'est passé hier. On en a parlé en passant, à savoir donc le débat à la Knesset sur la convocation des 40 signatures, lors duquel Binyamin Netanyahou a évoqué tous les sujets qui fâchent donc la loi de conscription, le statut international d'Israël, mais cette histoire de duel des commissions. On rappelle simplement qu'aujourd'hui, le gouvernement a décidé de mener une commission d'enquête gouvernementale qui sera nommée par les politiques, pour les politiques, hein, soi-disant moitié opposition, moitié coalition, mais l'opposition a déjà dit qu'elle boycotterait cette commission. Et puis, la personne qui a été mise à la tête de la commission, c'est Yariv Levin, donc l'architecte hein, de la réforme judiciaire. Il y aura aussi dans cette commission Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, Idith Silman, tous hommes politiques proches de Netanyahou, hommes et femmes politiques, pardon, proches de Netanyahou, dont on peut difficilement imaginer qu'ils vont tenir une critique qui va être constructive et difficile. Quant à la commission d'enquête d'État que réclame Ronen Bar, mais aussi le chef d'État-major, et puis la totalité des personnes un peu haute stature dans l'État d'Israël, c'est le type d'enquête le plus élevé. Elle est dirigée par un ancien juge de la Cour suprême. Elle jouit d'une indépendance totale et, comme vous l'avez dit, Bernard, elle a le pouvoir de convoquer des témoins et qu'ils soient obligés de se présenter, d'exiger des documents, même s'ils sont classifiés, et d'émettre des conclusions obligatoires, y compris des conclusions personnelles. Donc évidemment, c'est ce que ne veut pas le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Et j'en termine en disant que Naftali Bennett, qui se trouvait également à cette même conférence Cyber Week, s'est exprimé sur le même sujet, en affirmant que le gouvernement a décidé de concentrer ses efforts sur une loi pour une commission d'enquête politique nommée par les politiciens, au lieu de s'occuper des choses qui font souffrir les citoyens d'Israël, affirme Naftali Bennett, le gouvernement choisit de déchirer les citoyens d'Israël. Alors Bernard, je conclus en disant qu'on ne sait pas quand seront les élections, que Benjamin Netanyahou essaye d'avancer très très vite avec cette commission gouvernementale pour en quelque sorte mettre le problème derrière lui et que quand les élections arriveront, il pourra dire que cette commission aura déjà eu lieu. Mais vous savez, c'est un peu comme la loi sur la conscription, c'est comme le chewing-gum hein, qui colle et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Les citoyens d'Israël sont assez unanimes dans leur volonté d'avoir une commission d'enquête. Il est assez évident que si celle-ci se réunit et débat uniquement du retrait de Gaza en 2005 et des accords d'Oslo en 1993, on voit très mal comment Benjamin Netanyahou obtiendrait un quitus du peuple et pourrait par la suite dire que l'enquête a vraiment été menée. Donc je pense que cette affaire nous accompagnera largement dans les mois à venir.
Yael Ifra, je rappelle que vous êtes l'une des correspondantes permanentes de Radio Shalom à Jérusalem. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
Bonsoir Bernard.
Je vous disais en titre que le Hamas affirme qu'il n'y aura pas de nouvelle étape dans le cessez-le-feu avec Israël tant qu'Israël poursuit ses violations. Évidemment, les Israéliens renvoient l'ascenseur en disant que c'est le Hamas qui envoie des hommes à lui affronter les soldats israéliens dans la bande de Gaza. Du côté du djihad islamique, on affirme que tous les otages qui étaient entre leurs mains, conformément aux conditions de l'accord de cessez-le-feu, ont été rendus. Et le Hamas dit autre chose. Il dit que lui et la Croix-Rouge ont repris les recherches pour retrouver le corps du dernier étage restant dans le quartier de Zetoun, qui se retrouve à Gaza. Et en même temps, les deux informations ne sont pas forcément contradictoires. Le djihad islamique dit qu'il a remis les otages. Le Hamas dit, nous, on continue à chercher le dernier. C'est pas forcément contradictoire. Rom Braslavski, un ancien otage, a été reçu par le parti au pouvoir en Italie. C'est assez rare pour être remarqué, car l'Italie a eu des positions assez dures contre le gouvernement israélien, notamment au moment des flottilles. Et Rom Braslavski décrit des conditions de détention qui sont épouvantables. Le djihad islamique m'a assassiné physiquement et mentalement tous les jours, que ce soit des pressions physiques, des coups sur tout le corps. C'est des situations d'internement qui ne conviennent pas à un animal et certainement pas à un homme. Je vous demande de poursuivre dans votre travail pour la justice et la paix. Ce que des choses d'ailleurs auxquelles je croyais avant le 7 octobre. Mais je suis rentré à Gaza, j'étais 40 mètres sous terre à Gaza. J'étais sans douche pendant au moins un mois. Et regardez, maintenant j'ai un costume. Mais tout ça ne vient que de Dieu. Dieu. Merci. Voilà donc le témoignage de Rom Braslavski. Benjamin Netanyahou accuse l'autorité palestinienne de vouloir la paix sans Israël. Il dit ils veulent la paix, mais pas à côté d'Israël. Ils veulent la paix à la place d'Israël. L'armée de l'air israélienne a lancé une vague de frappes au Liban, y compris au nord du Litani. Le Litani qui est un fleuve qui, normalement, marque la frontière au-delà de laquelle, une frontière, disons une ligne, au-delà de laquelle le Hezbollah n'a pas le droit de se déployer. Gideon Sar est attendu à Washington pour une série d'entretiens diplomatiques de haut niveau. Raphaël Uzan nous a rejoint dans le studio. Bonsoir Raphaël.
Et bonsoir Bernard.
Alors Raphaël, on revient en France, c'est au moins de 2 ans de l'élection présidentielle, c'est ça? 2 ans, 18 mois. Une nouvelle enquête indique une forte percée des présidentiables du RN. Et ce qui frappe, c'est qu'ils sont tous en avant. C'est-à-dire, c'est une échappée, quoi.
Ah ouais, clairement. Donc franchement, pour la métaphore sportive en cyclisme, comme vous l'avez dit, hein, cela s'appellerait donc une échappée. Jordan Bardella et Marine Le Pen voient leur potentiel électoral s'envoler, car le patron du RN affiche 44% de potentiel électoral en hausse de 6 points, juste devant la triple candidate à l'élection présidentielle, à 43% hein, pour Marine Le Pen, en hausse donc de 7 points. Cette domination du tandem hein, du Rassemblement National bénéficie à toutes les figures de droite, à commencer par donc Marion Maréchal, de 3e du classement à 30%, en hausse de 6 points. Derrière, Jean-Philippe Tanguy, président hein, délégué du groupe RN, affiche lui un score de 19%, pas loin devant Sébastien Chenu, toujours à 16%. Et puis chez Reconquête, Bernard-Éric Zemmour, lui, demeure stable à 20 points, juste devant donc la vice-présidente de son parti, Sarah Knafaux, elle ancrée aussi à 19 points.
Alors, dans ce passage de paysage qui est dominé par la droite nationaliste, on va dire, bon, l'extrême droite, les présidentiables du camp macroniste affichent une performance qui est en demi-teinte. Il faut quand même faire une précision, Raphaël. C'est pas des intentions de vote.
Non.
C'est les gens disent je pourrais voter pour lui.
Okay. Voilà, tout à
et
fait.
Et lui, non, je peux pas.
Voilà.
Mélenchon, par exemple, je peux pas.
Okay. Exactement. Donc, puisque ce recul a enregistré à la fin de l'été, le trio donc composé du camp macroniste, donc d'Édouard Philippe, lui, 30%, de Gérald Darmanin, 28%, et Gabriel Attal, 28%, donc enraye la baisse, mais reste malgré tout donc loin derrière, donc. De tous les candidats, donc potentiels candidats, donc du Rassemblement National.
Très bien. Pour qui je pourrais voter? Et donc, ça nous fait
exactement
un Zemmour à 20%. Pourrais voter pour Zemmour. OK. Merci, Raphaël. Je vous rappelle la question du forum des auditeurs de ce soir, la question du forum qui est: est-ce que vous êtes contre le port du voile pour les enfants, les jeunes filles? Est-ce que vous êtes contre le port du voile à l'Assemblée nationale, puisque donc ce sont des sujets qui ont été agités par la fameuse droite nationaliste dont parlait Raphaël à l'instant, et d'ailleurs je vous propose d'entendre ce que disait Jean-Luc Mélenchon devant la commission d'enquête à laquelle il a accepté de répondre sur les rapports entre LFI et l'islamisme, rapport supposé entre LFI et l'islamisme. Et alors lui, quand il parle du voile pour les jeunes enfants, bah, on se doutait que ça allait venir, il met aussi la circoncision.
Je vous lance le défi, monsieur le rapporteur, pour que vous soyez dans le même embarras que moi pour trancher des questions de cette nature. Vous me parlez du voile. Et des enfants à qui l'on met en voile. Et que dites-vous de la circoncision? Elle concerne des jeunes enfants qui ne demandent pas leur avis. Elle est présente dans deux religions. Et maintenant présente dans les mœurs des gens qui n'ont pas de religion, mais qui considèrent que c'est une bonne chose de le faire. Personne ne pose jamais la question. Ça, c'est pas un problème. Les voiles sur la tête des filles, oui, c'est un problème. Et la circoncision. Il y a des gens pour qui c'est un problème, qui disent que c'est une maltraitance. Comment allons-nous nous sortir de ça, monsieur le rapporteur, monsieur le président? Comme je suis là, je ne sais pas vous répondre. Mais si vous avez des lumières, n'hésitez pas à nous les donner.
Vous aurez posé la question.
Voilà donc Jean-Luc Mélenchon qui dit, bah, si on parle du voile, enfin vous avez entendu, je ne vais pas le refaire. Par contre, c'est le sujet de notre forum de ce soir. Vous nous appelez au 01 43 36 04 06. Est-ce que vous êtes contre le port du voile pour les enfants? L'université de Tel Aviv réalise une nouvelle percée dans la révolution quantique. La révolution quantique, c'est la grande affaire de notre époque. On parle évidemment aussi de l'intelligence artificielle, mais l'université de Tel Aviv, une fois encore, tient son rang. Et nous sommes sur place à Tel Aviv avec Sivan Cohen-Wiesenfeld. Bonsoir.
Bonsoir Bernard.
Alors, donc nous, ce soir, on parle de, je disais, révolution quantique. Quelle est la nouvelle technologie qui a été développée à l'université de Tel Aviv?
Eh bien Bernard, la société d'informatique quantique de l'université de Tel Aviv, qui s'appelle Quantum Plus Pulse Ventures, a annoncé avoir développé un coupleur quantique, c'est-à-dire un composant qui connecte deux unités de base des ordinateurs quantiques, capable d'améliorer considérablement la capacité de ces ordinateurs et à fonctionner correctement malgré leurs erreurs, ce qu'on appelle la tolérance aux erreurs. Et ce, dans l'informatique quantique photonique, qui utilise comme unité de base les particules de lumière ou photons. Le brevet a été déposé et selon les estimations des chercheurs, cette avancée pourrait faire baisser le coût global du secteur de l'informatique quantique d'un milliard à 100 millions de dollars dans les années à venir. Il s'agit donc d'une avancée technologique révolutionnaire qui a le potentiel de propulser l'industrie future de l'informatique quantique.
Quels sont les avantages de l'informatique quantique ?
Eh bien, alors que les ordinateurs classiques utilisent des bits qui ne peuvent exister qu'à l'état de 0 ou 1, l'unité de base des ordinateurs quantiques est le bit quantique, qu'on appelle aussi le qubit, qui peut cumuler les deux états simultanément, ce qui lui donne une puissance de calcul potentielle exponentielle, c'est-à-dire que si un ordinateur 10 bits peut traiter 10 données, un ordinateur quantique à 10 qubits peut en traiter 2 puissance 10, soit 1024 données simultanément. Pour construire un ordinateur quantique, il existe plusieurs possibilités. L'une d'entre elles, c'est d'utiliser comme unité de base les particules de lumière ou photons. On parle alors d'ordinateurs quantiques photoniques qui peuvent fonctionner à température ambiante et produire sans problème des millions de qubits. Alors pourquoi n'avons-nous pas d'ordinateurs quantiques au bureau et à la maison? Eh bien, tout simplement parce que leur marge d'erreur est trop élevée. Une erreur d'1% suffit à rendre l'ensemble du calcul erroné après une centaine d'opérations. Aussi, pour relever ce défi, les chercheurs de l'Université de Tel Aviv ont mis au point un coupleur basé sur l'existence d'un dénominateur commun entre les circuits photoniques, la réaction des atomes en IRM et un système physique tout simple, deux pendules reliées à un ressort. Le nouveau coupleur a été testé mathématiquement et expérimentalement. Il réduit les besoins matériels informatiques, diminue le temps de calcul et améliore la tolérance aux erreurs des ordinateurs quantiques photoniques.
Et quelles vont être les étapes, les prochaines étapes de ce développement ?
Eh bien, à l'Université de Tel Aviv, on estime qu'il s'agit d'une amélioration révolutionnaire qui permettra de faire baisser le coût global de la construction des ordinateurs quantiques dans le monde à 100 millions de dollars, alors qu'il est actuellement estimé à 1 milliard, et qui va donc propulser en avant l'industrie de l'informatique quantique, dont le chiffre d'affaires devrait dépasser 1 milliards de dollars d'ici 2035. Par analogie avec l'informatique classique, améliorer les algorithmes quantiques revient à améliorer les transistors. Ça permet de réduire la taille et le coût des ordinateurs tout en les optimisant. On le sait, les ordinateurs quantiques peuvent craquer sans difficulté le protocole de chiffrement RSA, couramment utilisé sur Internet, et l'une des solutions pour se protéger consiste à transférer la clé de chiffrement au moyen de la communication quantique optique. Et là aussi, les nouveaux coupleurs de l'Université de Tel Aviv peuvent induire un changement fondamental. La nouvelle technologie a soulevé des réactions enthousiastes chez les analystes du secteur qui ont reconnu son fort potentiel de transformation mondiale, et la société donc Quantum Pulse Ventures va entamer son processus de commercialisation.
Sivan Cohen-Wiesenfeld, PhD, donc docteur de l'Université de Tel Aviv, je vous remercie. Bonsoir à vous.
Bonsoir Bernard.